Vendredi 31 janvier, bonjour et bon réveil, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, désormais seuls sur leur île, les Britanniques ce soir ne seront plus citoyens de l'Union Européenne. 3 ans et demi après le référendum approuvant le Brexit, c'est une page qui se tourne à Londres et à Bruxelles, avec encore beaucoup d'incertitudes et de négociations à venir. Les autres titres, Agnès.
Édouard Philippe replonge au Havre. Le Premier ministre annonce ce matin qu'il sera tête de liste aux prochaines municipales. Les premiers rapatriés français de Chine attendus dans le sud de la France à la mi-journée, alors qu'un 6e cas vient d'être recensé à Paris. Une prime aux non-grévistes qui passe mal à la SNCF. Et si on parlait enfin BD à Angoulême, rencontre avec Pierre Christin, le père de Valérian.
Invité de France Inter ce matin à 7h50, une icône de la pop française, une jeune artiste. Elle est chanteur, auteur, chanteuse. Elle écrase les ventes de disques avec des tubes qu'on a tous en tête. Entretien exceptionnel avec Angèle. À 8h20, deux invités dans le grand entretien de la matinale, Lord Edward Llewellyn, ambassadeur de Sa Majesté la Reine en France, puis l'ancienne ministre des Affaires européennes et eurodéputée Renew Europe, celle de la majorité présidentielle, Nathalie Loiseau, pour lui poser vos questions, le 01 45 24 7000 ou l'application France Inter. Et tout à long de ce 7-9, nous serons en compagnie de John Henley, le correspondant Europe du Guardian à Paris.
France Inter. J'ai décidé d'être candidat à la mairie du Havre comme tête de liste. Les mots d'Édouard Philippe ce matin dans une interview au quotidien Paris-Normandie. Le Premier ministre explique avoir longuement mûri sa décision et qu'il estime important pour un responsable politique de se confronter au suffrage universel pour ne pas être hors sol. Arrière-petit-fils de Docker, Édouard Philippe aime à rappeler son ancrage local. Yvonnet Tapon est au Havre pour Inter.
Moi, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. La petite phrase lâchée par Édouard Philippe en septembre dernier n'était pas passée inaperçue, comme d'ailleurs les fréquentes visites du Premier ministre dans sa ville du Havre. Édouard Philippe s'est installé dans le fauteuil de maire en 2010, après qu'Antoine Ruffnac lui ait passé la main au cours de mandat. Et au municipal de 2014, il est réélu au premier tour. Édouard Philippe explique que sa plus grande ambition est de redevenir maire du Havre, une ville que j'aime et que je veux continuer à transformer, dit-il à Paris-Normandie, mais une fois que sa mission confiée par le président s'achèvera. Il restera donc à Matignon s'il est élu. Servir son pays est un honneur, s'engager pour sa ville est un enracinement et un engagement de long terme, ajoute le Premier ministre. L'actuel maire du Havre, Jean-Baptiste Gastine, le restera donc en cas de victoire de la majorité. La casquette de Premier ministre pourrait aussi réveiller les oppositions dans une ville où la CGT, porteuse notamment, pèse lourd. Le syndicat appelle d'ailleurs à manifester dès ce soir, devant la salle où il tiendra meeting. Yvonnet Tapon, France Bleu Normandie pour France Inter.
Édouard Philippe qui sera l'invité de nos confrères de France Bleu Normandie tout à l'heure à 8h10.
7h03, it's time to leave, c'est l'heure des adieux à Londres, Agnès.
Ce n'est pas une fin, mais le début d'un renouveau. Extrait du discours que doit prononcer ce soir Boris Johnson, au moment donc où le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union Européenne après 3 ans et demi de déchirement, de psychodrame, de vote contradictoire et de report. Ce jour a beau être historique, il n'entraîne pas dans l'immédiat de changements concrets, si ce n'est symboliquement le retour du passeport bleu pour les Britanniques. Londres et Bruxelles ont à présent 11 mois jusqu'à la fin de l'année pour établir les règles de leur future coopération. Le chantier s'annonce titanesque et les expatriés français installés de l'autre côté de la Manche ne savent toujours pas quel sera leur statut. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter à Londres. Vous avez rencontré Claude Bossy, un chef étoilé qui a son restaurant à South Kensington, un quartier chic de Londres, où vivent d'ailleurs de nombreux Français.
Et c'est bien sûr en cuisine que l'on retrouve Claude Bossy.
Vous avez une petite purée de sésame qui se prépare.
Le chef étoilé, pas très doué avec les papiers, a mal rempli son dossier. Il a failli se faire refuser le statut de résident, désormais obligatoire.
Donc la lettre marque, on est bien courant que vous êtes là depuis 1997, mais on s'en fout. Il nous manque quand même 3 papiers. Et c'est ça qui est vraiment triste, de ne pas être bienvenu en fait. Non, l'idée de, on n'a pas besoin de vous en fait, vous n'êtes pas content, rentrez chez vous.
Sa mésaventure a fait réagir, le ministère de l'Intérieur l'a rappelé et tout a fini par s'arranger.
Mais je me dis, combien de familles comme moi qui n'ont pas d'ailleurs de recours derrière, ils ne savent pas quoi faire.
Une incertitude d'ailleurs qui pèse aussi sur ses équipes.
Le personnel est un peu plus difficile à trouver parce qu'ils ont peur de venir, comme ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. Ils ignorent dans quelles conditions ils peuvent rester et surtout s'ils peuvent rester. Donc eux, ils ont embauché 22 cuisiniers comme on avait, on en a embauché 17. Donc au lieu d'ouvrir 9 services, on n'ouvre que 8 services maintenant.
Mais le chef a décidé de s'adapter.
J'ai pas trop le choix. J'ai toute ma vie dans ce restaurant. J'ai mis tout ce que j'ai, donc si je ferme maintenant, je fais quoi? Je dis à ma femme, on s'achète une caravane et on part. j'ai accepté de vivre dans le pays, on va s'adapter et changer notre façon de travailler. Puis on va passer la vague.
Et pour passer la vague, Claude Bozzi réclame une meilleure information de la part des autorités britanniques à destination des expatriés.
Merci Isabelle Labéry en direct de Londres ce matin pour Inter avec Arthur Gerbeau. Et on vous retrouve dans le journal de 7h30 aux côtés cette fois d'un anti-Brexit. C'est donc ce soir à minuit heure française, 23h GMT, que le Royaume-Uni tournera la page de 47 années de relations tumultueuses. Les Britanniques n'ont par exemple jamais accepté la monnaie unique et ont refusé de signer les accords de Schengen. Alors, ce jour de Brexit sera-t-il un jour de fête ? Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Quel est le programme de ce Brexit Day ?
C'est une sortie discrète qui va se passer aujourd'hui parce que Nigel Farage et son parti du Brexit voulaient un feu d'artifice, une sortie célébrée par les coups de gong de Big Ben. Ils n'ont eu qu'une petite autorisation de mettre devant le Parlement des haut-parleurs et de la musique. On est loin de la marche au flambeau qui, en 1973, avait marqué l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le gouvernement va tout de même projeter une horloge avec le décompte des dernières minutes sur la résidence du Premier ministre. Et Boris Johnson, le chef du gouvernement, sera ce matin pour un conseil des ministres extraordinaire à Sunderland, dans le nord ouvrier de l'Angleterre. Les habitants là-bas ont voté à 61% pour la sortie de l'Union européenne en 2016. Boris Johnson qui devrait aussi diffuser sur les réseaux sociaux un discours sans triomphalisme en parlant de renouveau national. Quant aux objets promotionnels commandés par le Parti conservateur, tasse à thé, badge, torchon de cuisine qui devait porter le slogan « J'ai fait le Brexit », ils devaient être vendus sur le site du parti, mais ils n'ont pas été commandés à temps. Ils seront disponibles, mais dans quelques semaines seulement, tout un symbole.
Et il va falloir donc patienter. Merci Antoine Gignot en direct de Londres pour Inter. Les prochains rendez-vous consacrés au Brexit sur Inter dans 10 minutes, notamment avec le correspondant à Paris du Guardian, John Hanley.
7h07, la suite du journal, et on arrive maintenant à l'épidémie de coronavirus en Chine et l'arrivée dans quelques heures des premiers rapatriés français, Agnès.
L'avion militaire avec 200 personnes à bord est attendu à la mi-journée à Istres. Les rapatriés français seront ensuite installés dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, près de Marseille, où ils devront rester 14 jours sous surveillance médicale. La France, où Véronique Julien, un sixième cas a été officiellement annoncé hier soir.
C'est en auscultant un patient étranger qui présentait des symptômes que le médecin français a été infecté. Le patient de retour en Asie a été testé positif, le médecin en a été averti. Il connaissait le risque, il a donc pris tout de suite les mesures nécessaires quand il s'est senti lui-même fébrile. Il s'est immédiatement isolé à domicile, il a mis un masque et il est désormais hospitalisé dans un établissement parisien et dans une chambre d'isolement. Son état, d'après la Direction générale de la Santé, n'inspire pas d'inquiétude. Se pose évidemment la question des patients qu'il a pu approcher en étant potentiellement contagieux. Une enquête épidémiologique est en cours. On recherche, selon le protocole, toutes les personnes qu'il a pu côtoyer. Ce sixième cas est le premier annoncé de contamination sur le sol français. Une Chinoise de 50 ans testée positive avant-hier a été contaminée, sans doute par son père, mais on ne sait pas à l'heure qu'il est si le virus lui a été transmis sur le territoire. Les autorités sanitaires précisent qu'en France, il n'y a pas de cas détecté qui reste sans explication. D'après les informations transmises par les experts internationaux, le virus dans le monde touche des personnes d'un âge médian de 48 ans. Les moins de 15 ans sont très peu concernés et l'incubation prend 3 à 7 jours.
Et puis l'OMS a de son côté décrété l'urgence internationale après une semaine de tergiversation. Le bilan continue de s'alourdir avec 213 morts en Chine et près de 10 000 patients contaminés. C'est donc une prime qui passe très mal. La direction de la SNCF a versé des primes allant de 500 à 1500 euros aux salariés non grévistes qui ont assuré le service, notamment durant les vacances de Noël, en pleine grève contre la réforme des retraites. Une décision, Maxime Debs, qui provoque la colère des syndicats et des grévistes.
Déjà pour Bruno Poncet du syndicat Sudrail, il y a dans le versement de ces primes une aberration avec les récentes déclarations des dirigeants de l'entreprise.
Soi-disant, ils ont perdu 1 milliard avec la grève et derrière, ils donnent des primes de 500 euros ou peut-être même plus. C'est quand même incompréhensible.
Et incompréhensible, ces primes risquent également de l'être pour les voyageurs qui n'ont pas pu se déplacer entre décembre et janvier.
Parce que eux, ils n'ont pas eu de train et vont voir que certains cheminots qui soi-disant étaient au travail vont toucher plus. Alors je pense pas que ça va les faire beaucoup rire.
Mais surtout se pose la question juridique pour les syndicats. En 2010, la Cour de cassation avait jugé discriminatoire l'attribution par l'employeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. En ça, la SNCF peut bien parler de récompenses justifiées à des agents qui n'ont pas compté leurs heures afin de compenser les absences de leurs collègues. Pour Manuela Grévy, avocate justement à la Cour de cassation, la question de la légalité peut très bien se poser.
De deux choses l'une, soit il s'agit de rémunérer du temps de travail supplémentaire. Et dans ces cas-là, il s'agit d'heures supplémentaires qui doivent être rémunérées selon le régime des heures supplémentaires et non par le biais de primes. Soit il s'agit effectivement de récompenser un supplément assez indéterminé lié à une période compliquée et auquel cas on est très clairement dans la prime anti-grève, la prime versée aux salariés qui n'ont pas fait grève.
Légal ou pas légal, en tout cas Sudrail ne s'interdit pas de saisir la justice.
Et rappelons que c'est aujourd'hui que s'ouvre le site destiné à rembourser les abonnements des passes Navigo pour le mois de décembre. Condamné en première instance, le cardinal Barbarin a été relaxé hier en appel et va de nouveau remettre sa démission au pape. Les parties civiles au procès qui estiment que le cardinal Barbarin n'a pas dénoncé les agissements du père Prénat ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. La mort d'un adolescent de 14 ans hier à Paris après une rixe dans le 10e arrondissement. Le jeune homme a reçu plusieurs coups de couteau. Un jeune du même âge a été placé en garde à vue. Il y a un peu plus d'un an, dans le 20e, un jeune de 17 ans avait été tué lors d'une bagarre entre bandes rivales de l'Est parisien. Les affiches des quarts de finale de la Coupe de France de foot après la victoire hier soir de Lyon sur Nice 2-1. Lyon qui recevra Marseille, le PSG jouera à Dijon, Épinal accueillera Saint-Etienne et Belfort le Stade Rennais. Les rencontres se dérouleront les 11 et 12 février prochains.
Direction enfin Angoulême où se poursuit le festival de la BD.
Un festival agité cette année. Colère des auteurs sur leur rémunération, ministre de la Culture hué, président posant avec un t-shirt dénonçant les violences des forces de l'ordre, colère des policiers. Mais les abatteurs de BD seront comblés avec une dizaine d'expositions, dont celle consacrée à Pierre Christin que Laetitia Gaillet a rencontré.
C'est une voix chaude qui vous attire au loin.
Et voilà, je montais un petit spectacle où je faisais tous les rôles.
Pierre Christin vous cueille dès le début de l'exposition. Sous les planches des dessinateurs avec qui il a collaboré, la voix du scénariste vous prend par la main. Des débuts avec ses copains du lycée, Mézières, Giraud, alias Moebius, à Valérian, il vous dit « voici mon parcours ».
J'ai commencé avec la SF, avec Bilal je suis passé au Fantastique, avec Annie Goetzinger à des portraits féminins, beaucoup plus tard avec André Juillard à des BD, disons, de géopolitique. Et ça, ça a été une vie merveilleuse.
Dans une ambiance tamisée, on découvre son aventure aux États-Unis, celle à l'école de journalisme de Bordeaux dont il fut le patron. Pierre Christin s'est nourri de tout pour écrire ses histoires. Scénariste, un métier pourtant mal compris.
En BD, il y a plein de gens qui disent scénariste. C'est quoi ? C'est celui qui vient mettre des textes dans les bulles quand tout est fini. Non, c'est celui qui est bien avant que tout soit commencé. Et tout d'un coup, je me dis, bon, ben, je vais essayer de raconter ce processus en mélangeant ma propre chronologie et les œuvres qui ont gravité autour de mes thèmes de prédilection.
À 82 ans, au milieu des géants du dessin, Pierre Christin conclut simplement « J'ai eu une vie de rêve ». Angoulême, Laetitia Gaillet, France Inter.
Et l'exposition Pierre Christin est à Angoulême jusqu'au 9 février.
Merci Agnès Soubiran.